Peut-être deux questions, ça concerne plutôt la question, la copine italienne. L'un, est-ce que l'augmentation importante du nombre de départs ou d'arrivées n'est pas aussi liée à la Syrie, y compris au traitement, par exemple, l'Égypte, depuis le coup d'État militaire, est devenue beaucoup plus dure pour les réfugiés syriens, donc ce qui fait qu'il y a plus de pression pour les Syriens de partir vers l'Europe. Et deuxièmement, en janvier de cette année, il était question de suppression de cette loi Fini-Bossi qui criminalise les migrants irréguliers. Est-ce qu'elle a été supprimée finalement ou est-ce que ça reste dans l'ordre du discours?
La présence des Syriens était très importante en 2013, mais n'est pas forcément le cas en 2014. Donc, sûrement, à un certain moment, la route des Syriens était celle de la Libye. Mais ceux qui arrivent maintenant. Alors, pour vous faire comprendre les chaos dans lesquels l'Italie actuellement ne donne même pas des chiffres, des statistiques pour savoir quelles nationalités sont en train d'arriver. C'est que des chiffres, donc c'est 2000, 3000, 4000, mais j'ai l'impression, en faisant un peu en question un peu autour de moi, c'est plutôt des camps d'Afrique et Afrique subsaharienne. Donc effectivement, ce n'est pas forcément les cas des Syriens en 2014. Par contre, c'était le cas assez fortement en 2013. C'est une information à vérifier, mais certains ils parlent aussi des départs d'Égypte, parce que la situation justement est très endurcie aussi pour les migrants en Égypte, donc en tentative de départ, mais avec beaucoup plus compliqué parce que aussi la route est assez longue. Pour ce qui concerne la Bossi Fini, non, elle n'était pas abrogée. Il y a eu l'abrogation du délit des clandestinités. Qui donc cette criminalisation de l'arrivée clandestine, mais la loi Bossi-Fini qui implique plein d'autres facteurs n'a pas changé et malheureusement la politique du gouvernement italien en matière d'immigration ne semble pas forcément vouloir changer. Alors du moins avec cette espèce de discours obsessif qui a caractérisé tous les gouvernements italiens qu'il faut collaborer avec l'Italie, avec la Libye. Dans la collaboration avec la Libye, a commencé sous des gouvernements de gauche, a continué sous des gouvernements de droite. Certes, Berlusconi est arrivé, je pense aussi pour sa spécificité des caractères très proches de Gheddafi, arrivé où les autres ne sont jamais arrivés. Mais ça continue et c'est vraiment les leitmotifs qu'on voit. À chaque conclusion, c'est toujours non, mais il faut collaborer avec la Libye, il faut demander à la Libye de gérer ses frontières. Donc, moi, je trouve assez aberrant dans un contexte tel qu'on le voit maintenant, comment sont traités les migrants et surtout s'ils enfuient de façon si massive, forcément, il y a des raisons et ça. C'est vraiment pas question de se questionner sur ces raisons de départ, mais simplement sur il faut collaborer avec eux.
Oui, je voulais ajouter sur la question des migrants. L'ancien Premier ministre Zidane, qui a été démis par le Parlement, enfin la majorité islamiste du Parlement, avait demandé aux Européens de financer des projets de développement dans les pays africains. Il avait dit aux Européens, vous aurez beau mettre de l'argent dans la répression, ça ne résoudra pas le problème. Si vous voulez que les migrants africains arrêtent d'arriver en Europe, il faut financer du développement dans les pays d'origine. Le problème enfin, j'ai visité un camp de réfugiés, enfin un camp de réfugiés, de déplacés libyens, des Tawara, un camp de réfugiés érythréens, éthiopiens et somaliens à Benghazi,
Ouais, le sol qui est ouvert parce que les autres sont.
et la prison qui est juste à côté. Et bon, ce que m'ont expliqué les responsables de la prison, c'est que bon, il faut savoir que les Libyens sont très nationalistes. Dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que, y compris, ils contestent la nationalité libyenne de certains Libyens qui sont Toubous et dont les tribus sont à la frontière entre la Libye et le Niger, ou des Touaregs dont les tribus sont à la frontière entre la Libye et l'Algérie ou la Libye et le Mali. Donc la conception de la nationalité en Libye est quelque chose qui pose un problème. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas aussi libyen que les autres. Il y a aussi le problème entre les Touaregs, enfin les Amazighs, les Berbères, les Berbérophones et les Arabophones. Et chez les islamistes, c'est particulièrement marquant, c'est-à-dire que tout Libyen doit parler arabe et quasiment ne parler qu'arabe. Il est hors de question que la langue berbère devienne une langue nationale. Et la question de la nationalité est une question sur laquelle se polarisent les gens. À l'époque de Kadhafi avait joué, comme il avait joué entre les tribus, il avait joué aussi à donner la nationalité à des ressortissants d'autres pays, mais appartenant à des tribus frontalières, etc. Donc ça, c'est une espèce de vengeance vis-à-vis oui. de Kadhafi. Et puis, le fait que les Libyens disent, nous, on a fait notre évolution pour nous, les étrangers ne venaient pas. Ne venez que si vous avez des contrats de travail. Et tous ceux qui n'ont pas de contrat de travail n'ont pas à venir. Bon, c'est une position réactionnaire, c'est tout ce qu'on veut. Hein, mais... donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mafias, c'est-à-dire qu'il y a des organisations qui proposent aux migrants dans les pays d'origine, avec toute une chaîne dans laquelle sont impliqués des Libyens, mais aussi des gens de toutes les nationalités, dans toute la chaîne de transfert, et certainement en Europe aussi. Donc il y a une mafia du trafic de migrants. Et je pense que c'est à la fois sur cette mafia de trafic de migrants et sur la question du développement dans les pays du Sud, et aussi les responsabilités de l'Europe. Quand j'ai visité le camp des réfugiés, les réfugiés veulent tous aller en Europe et aux États-Unis, mais le HCR les enregistre et l'Europe ne veut pas accueillir les réfugiés. J'ai rencontré deux jeunes gens de nationalité américaine. L'ambassade des États-Unis n'en veut pas. Donc, effectivement, vous avez des comportements tout à fait inacceptables de la part des miliciens libyens qui ne sont pas la crème des gens qui respectent les droits de l'homme. Hein, c'est des... Voilà. Il y a aussi des conditions, c'est-à-dire comme l'État n'a pas d'argent et ne veut pas dépenser d'argent pour s'occuper des migrants, la prison que j'ai visitée, il y avait 4 hommes pour garder. À l'époque, il y avait 400 prisonniers, ça peut aller jusqu'à 1000. Comment vous faites pour garder 400 prisonniers ou 1000 quand vous êtes 4? Eh bien, vous tirez sur le premier qui bouge. Et vous classez les gens en, comme tu as dit, alors les malades, alors ceux qui ont la gale, on les met là, ceux qui ont le sida, on les met là, ceux qui... Bon, c'est-à-dire, c'est du traitement totalement inhumain, mais qui s'explique par le fait que le gouvernement libyen, c'est pas sa priorité, les organisations des droits de l'homme libyennes, c'est pas leur priorité. Déjà, s'ils pouvaient faire sortir les prisonniers libyens qui sont dans les prisons libyennes, qui sont torturés, régler les problèmes des femmes libyennes qui ont été violées... Bon, alors il y en a une ou deux organisations libyennes qui s'occupent des étrangers, il y a Caritas... Voilà, mais bon, c'est très limité. Le problème, c'est l'Europe, comme tu dis, qui dit oh bah faites davantage de camps, qui refuse les réfugiés, qui refuse de faire du développement dans les pays du Sud. Voilà, donc il y a toute une chaîne de responsabilités. Le milicien de base, c'est celui qui tire sur les gens, c'est celui qui maltraite le rebelle, c'est celui qui pique les téléphones. Voilà, mais. Et puis, je pense qu'il y a eu un appel d'air, c'est-à-dire que tant que Kadhafi était au pouvoir, les migrants ne partaient pas. Donc, ne venaient et ne restaient que les gens qui pouvaient travailler en Libye. Depuis la chute de Kadhafi, c'est devenu un lieu de passage. Et il y a beaucoup de personnes qui tentent leur chance, parce que c'est plus ça reste plus facile apparemment de passer en Libye qu'au Maroc ou en Égypte.
Ça c'est clair, mais en plus, il y a moins de travail en Libye, donc il y a certains qui arrivent et puis départ. Après, il faut dire une chose, dans le sens, l'État libyen, et ça c'était sous Gaddafi de façon alternée, mais actuellement, on ne reconnaît pas l'HCR. L'HCR ne peut pas registrer les demandeurs d'asile. Hein. Il peut juste veiller à cette présence. Du coup, c'est pour ça que créer des camps de réfugiés, tu dis, mais vous êtes au courant que la Libye n'a pas signé la convention de Genève et n'a même pas donné un statut à la chair. Sous Gaddafi, de temps en temps les virer, de temps en temps les accepter et donc ça a changé. Bien sûr, dans le sens, après, pour avoir un note d'espoir, pour moi, s'il y a une proposition à faire, malheureusement, sur cette situation-là, il n'y a qu'une seule solution. En Italie, on parle des couloirs humanitaires. Selon moi, c'est vraiment, autre à la liberté de circulation dans un temps plus large, c'est au moins l'ouverture des voies légales, dans le sens de permettre à ces personnes, c'est ridicule de dépenser des millions d'argent pour aller les chercher face aux côtes libyennes, leur éviter la mer, vu qu'en plus des tragédies se produisent quand même, ça serait beaucoup plus logique. Mais bon, ça c'est une chose qui difficilement ils vont accepter.
Oui, moi je voudrais revenir un peu sur l'intervention. Parce que bon, ce qui se passe pour les migrants, c'est aussi... Alors, sur l'intervention, moi je pense qu'une des raisons, tu l'as abordé comme étant une conséquence, mais à mon avis, c'est aussi une des raisons de l'intervention. C'est-à-dire, Kadhafi, avec tout ce qu'il était, et il n'était vraiment pas quelqu'un de très, très fréquentable et très intéressant, malgré tout, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, il avait une position panafricaine, et enfin, en tout cas, il l'affichait, et ça marchait un peu quand même. Moi, j'étais au Mali lorsque Kadhafi y est venu, l'accueil populaire était un vrai accueil populaire. Mais meilleur que celui de Hollande, venu, pardon. Pareil.
J'étais c'est... à Agadez quand il est venu, c'était
un vrai accueil populaire.
Oui, c'est-à-dire bah, c'est que normal, les... ils accueillent des millions.
Hein. Ben, exactement, mais c'est ça. Non, mais voilà. Donc c'est donc une des raisons, c'était aussi de détruire ces liens dont Kadhafi jouait quand même, y compris dans ses rapports avec les Européens. C'est ça que je veux dire. Il avait quand même, il c'était un mégalomane, et donc il avait des ambitions. Il dépensait beaucoup d'argent pour ça, mais c'est de l'argent qui arrivait quand même. Et donc qui bon et qui lui donnait une certaine influence. Et je pense qu'une des raisons d'intervention, c'est y compris de casser cette influence. Sur la situation des migrants, justement, elle s'est dégradée. Elle devait pas être bonne avant. Moi, je connais pas du tout la Libye. Je suis jamais allé. Mais ce que je sais, par contre, c'est que des Africains allaient aussi en Libye. Et ça aussi, c'est une protection pour les migrants. Kadhafi, dans ses opérations de propagande, c'est tous les régimes font ça, hein, l'URSS a fait ça, des opérations de propagande, faire venir des jeunes, enfin, etc. Kadhafi faisait venir des jeunes du Burkina Faso, du Mali, enfin, etc. Et cela, ça obligeait une certaine retenue dans la maltraitance des migrants et une certaine retenue dans le racisme. Tu as parlé de nationalisme, moi je dirais du racisme, y compris en Libye. Et ça a entraîné une certaine retenue. Parce que, bon, ça existait, mais c'était quand même un peu limité par ça. Voilà, moi, c'est ça que je veux dire. Parce que, et dans l'intervention, pour revenir à ça, je pense aussi que les conséquences, elles étaient aussi attendues. Hein. C'est-à-dire que la stratégie du chaos fait partie de la stratégie de domination. Je pense que oui. Alors, peut-être que je suis excessif, mais je pense que ça en fait au moins partie pour une partie. C'est-à-dire que détruire quelque chose qui, même sous un aspect dictatorial, enfin, etc., bon, criminel, enfin, bon, je veux pas du tout absoudre Kadhafi de ses crimes, maintenait quand même un État qui était une résistance, et ben, le chaos, ben, ça permet de s'installer beaucoup mieux. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir l'installation occidentale en Libye. Je pense que ça va s'amplifier.
Pas pour le moment, mais.
Oui, mais ça va
attendre quand même quelques années, je pense.
Oui, mais enfin, ça va s'amplifier. Pourquoi ? Parce qu'y compris celui qui est en train de lutter contre les djihadistes, bon, on peut avoir quelques soupçons sur ses attaches avec les USA. Il a quand même vécu assez longtemps.
Ah bah, lui, c'est l'ami de tout le monde. Hein.
Bah oui, justement. Non, mais il a vécu en Virginie, à côté du centre de la CIA. Oui. Alors, je veux pas être complotiste, mais enfin, ouais, il y a quand même des proximités qui sont. Qui sont un peu... Donc ce que je veux dire, c'est que la présence occidentale en Libye, à mon avis, militaire y compris, elle va s'amplifier dans les années qui viennent. Je pense que c'est, ça se dessine. Voilà.
Juste pour, sur la question militaire, juste pour information, il y a un renforcement des services américains dans les bases autonomes des Siciles, justement en regardant la situation libyenne. Donc je pense qu'il y a vraiment un...
Actuellement, il y a une opération oui. militaire internationale qui est en cours en Libye.
Oui.
Et notamment, moi, ça me fait rire parce que là, ces derniers jours, on a vu des images de réfugiés qui étaient récupérés en tout cas de migrants qui étaient récupérés en pleine Méditerranée par un bateau qui est l'USS
oui.
Canaan ou je sais pas quoi, Banane, un truc comme ça.
Ouais.
Et ça, c'est le bateau d'appui de l'opération des forces spéciales américaines en Libye. Donc là où on revient sur ton mix complet entre le mélange et la confusion sur le rôle des militaires, en fait, eux, ils sont en train de mener une opération. Effectivement, ils en profitent pour faire des images qui vont servir à justifier leur présence. Mais en fait, ce bâtiment-là, il n'est pas du tout là pour récupérer des
oui,
migrants.
Oui, non, mais par contre, l'opinion publique italienne, il passait par hasard. Voilà.
Exactement.
Ça, c'est l'opinion.
En France, ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, pour décrire cette opération militaire, on trouve des sources à l'étranger, en Algérie ou dans d'autres pays. En France, j'ai trouvé un article qui relate l'opération militaire, c'est dans le Nouvel Observateur. Et alors, il y a à peu près tout qui est repris, sauf que la France participe à cette opération. Donc là, on est vraiment dans le déni complet, quoi. C'est-à-dire, même y compris au niveau des journalistes ou des rédactions, on n'y est pas. Ouais. C'est fantôme, quoi. C'est
incroyable. Ouais, l'opération militaire italienne, moi, j'ai dû aller chercher des documents du ministère des Affaires étrangères qui n'était pas forcément public, qui parlait du 1000 qui était donné, qui finalement c'était l'opération militaire italienne en Libye, et ça s'appelait 1000. Mais on n'en parle pas du tout.
C'est quoi l'opération?
C'est en présence militaire des Italiens demandée officiellement. Alors ça, par contre, on dit tout le monde, on a répondu positivement aux États-Unis qui nous ont demandé officiellement au G8 d'intervenir en Libye.
Et il y a également des négociations entre les pays voisins de la Libye, donc tous les pays du Maghreb, Égypte comprise, mais pas seulement l'Égypte, le Tchad, etc., sur la question du terrorisme au Sahel, parce que ce qu'ils ont vu, c'est que ce soit en Libye ou en Syrie ou en Irak, les groupes djihadistes s'appuient aussi sur des rivalités tribales. C'est-à-dire que les groupes djihadistes ont aussi des membres qui sont des enfants originaires des locaux, on va dire, et ils se développent. Par exemple, en Syrie, on sait que l'État islamique d'Irak et du Levant est en conflit avec le front de Nosra, que ces rivalités recoupent aussi des rivalités tribales. En Libye, on sait qu'une partie de Ansar Sharia et des autres groupes ont des racines également locales. Donc ça pose un problème, c'est-à-dire, Haftar, il peut se permettre d'aller bombarder les gens comme ça indifféremment parce que lui, il n'est pas originaire de la région et que, il a vécu aux États-Unis pendant 20 ans, donc c'est pas son problème. Mais pour les politiques locaux, en fait, ça arrange tout le monde. C'est-à-dire que ça arrange les laïcs qui étaient totalement incapables, qui se faisaient tout prendre par les islamistes et qui étaient incapables d'avoir la moindre contre-offensive. Ça arrange les frères musulmans, parce que Haftar fait le travail à leur place. Ça arrange même le groupe combattant de Belhadj, parce que c'est pareil. Lui, il négocie avec les Ansar et Sharia, mais Ansar et Sharia, ils disent d'accord, mais on applique la loi islamique. Donc là, il est un peu bloqué, parce qu'on ne peut plus parler de démocratie si on impose la loi islamique par les armes. Donc en fait, Haftar fait le travail pour tout le monde. C'est pour ça qu'on le laisse. C'est quand même étonnant, parce que la majorité islamiste au CGN, elle a quand même l'armée de Masrata, Dera al-Wosta, donc le bouclier central, Liam Masrata. Elle a le bouclier islamique de l'Est. Donc s'il voulait faire une contre-offensive contre Haftar, il pourrait. De même, quand il y a eu le problème des ports et des exportations de pétrole, les troupes de Masrata sont arrivées, les troupes de l'Est sont arrivées, et ils ont dit, on ne se tape pas dessus, et on trouve une solution négociée, on paye les salaires des gardes depuis un certain nombre d'années. Donc, le problème pour tous ces pays, c'est qu'une partie des troupes des djihadistes sont locaux et sont liées à des rapports de force politiques locaux. Et puis une autre partie est liée à une mouvance internationale. Et en fait, ils sont sur le fil. C'est-à-dire qu'il faut jouer entre limiter, si possible, renvoyer chez les voisins les islamistes les plus radicaux, surtout ceux qui sont liés à Al-Qaïda, enfin au groupe extérieur, et en même temps éviter créer plus de problèmes internes. Donc, cette intervention étrangère, certes, il y a une intervention étrangère, mais elle est totalement consensuelle du point de vue des gouvernements locaux. Le gouvernement libyen, que ce soit les islamistes ou les laïcs, ils ne sont pas opposés. L'Égypte, n'en parlons pas. L'Algérie, n'en parlons pas. Voilà. Donc, l'entrée de l'Algérie, par exemple, on dit sur les télés libyennes, on dit l'Algérie, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée.
Oui.
Voilà.
Les Algériens, on dit qu'ils ne sont pas rentrés.
Voilà, les Algériens disent on n'est pas rentrés. Les Libyens disent heureusement que les Algériens sont rentrés. Donc, vous voyez, c'est pas une affaire d'État. Il n'y a un consensus là-dessus. Sur la question des migrations, il y a aussi malheureusement un consensus, c'est-à-dire que les États africains, ils ne défendent pas leurs migrants non plus. On n'entend pas les dictateurs africains, que ce soit ceux qui ont été soutenus par Sarkozy ou ceux qui n'ont pas été tous soutenus par Sarkozy. Donc en fait, l'Union européenne, nos gouvernements ont des politiques totalement démagogiques, criminelles. La situation des droits de l'homme pour les migrants en Libye, l'Europe est responsable. Un truc tout bête, hein, c'est que quand vous emprisonnez des gens pour pas qu'ils aillent, vous les nourrissez comment ? Les bouteilles d'eau minérale, qui c'est qui les paye ? Donc, certes, la Libye a du pétrole quand elle en exporte et quand les ports sont pas bloqués et quand elle n'a pas des conflits internes. Mais si l'Union européenne veut que... Et si nous, Européens, on accepte que nos gouvernements bloquent les migrants africains en Libye, eh ben, il faut passer à la caisse.
Bah, c'est ça qu'ils attendent les Libyens, d'ailleurs.
Non, mais pas passer à la caisse pour des drones. Passer à la caisse pour payer la bouffe, le médecin, les sages-femmes, etc.
Mais alors ça, malheureusement, dans le sens, c'est ça, contre ça aussi que nous, on s'oppose, dans le sens que dans l'accord Italo-Libye, il y a effectivement dit, écrit noir sur blanc, que l'Italie payait les centres sanitaires dans les centres de rétention des Koufras. Pour moi, c'est inacceptable de penser que l'Italie paye dans un centre de torture un centre sanitaire, médico-sanitaire. Dans le sens, effectivement, il y a une volonté, le problème, c'est que ces centres doivent être fermés.
Oui, mais s'il est fermé, les gens, ils sont là, donc ils sont rattrapés, ils sont mis dans des prisons encore pires. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une cohérence. Tu as des dizaines de milliers de personnes qui viennent du sud vers le nord. Bon, si les Européens ne sont pas prêts à les accueillir et qui sont pas prêts à financer dans les pays d'origine, à changer en fait le régime des pays d'origine parce qu'il n'y a pas besoin de financement puisque les pays d'origine sont des pays miniers, sont des pays extrêmement riches normalement. Bon, donc si les Européens, la moindre des choses qu'on puisse exiger, c'est qu'au moins qu'il y ait un contrôle sur les prisons, qu'il y ait qu'une association, même des ONG locales. Les ONG libyennes.
Bien sûr, c'est une première étape des revendications, mais je pense que dans un cadre des revendications plus générales, où il faut absolument dire, au moins les réseaux que j'ai à présent, dit la Libye n'est absolument pas. On ne peut pas demander à un pays de gérer des migrants qui ne veulent pas rester en Libye, qui n'a pas signé la Convention de Genève et qui veulent aller dans un autre pays. Donc la seule unique revendication, c'est des prises de responsabilités de l'Union européenne.
D'accord.
Je pense, parce que sinon, si on rentre dans un...
Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même quelque chose de concret. C'est que là, tu as des gens qui arrivent en Libye. Tu as ceux qui passent, tant mieux pour eux. Tu as ceux qui se font choper. Ceux qui se font choper, est-ce qu'on les laisse crever en prison ?
Non, la question... Ah bah, absolument pas. Non, d'ailleurs, les revendications, dans les rapports, c'est assez articulé. Parce que bon, là, c'est d'abord la prise en charge de ces demandeurs d'asile qui ne veulent... Alors déjà, parce qu'ils n'ont rien à faire dans un pays qui n'a pas signé la Convention de Genève. Ils ne peuvent même pas... Le président du Conseil italien qui dit on ouvre des camps des réfugiés, mais dans un pays qui n'a pas signé la Convention de Genève, ça, c'est inimaginable, a priori, à niveau du droit. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut dire d'abord une assumption de responsabilité. Deuxièmement, la fermeture de ces centres. Et puis, vraiment, une ouverture. C'est pour ça que pour moi, la seule revendication possible, c'est l'ouverture d'accès légal sur les territoires européens. Parce que la situation actuelle en Libye, après qu'il y a des organisations comme nous, on fait des missions, des dénonciations, des présences. Et moi, j'invite des organisations qui travaillent principalement sur la question médico-sanitaire à rentrer dans ces centres et à opérer et être présents, ça bien sûr, mais aussi dans un optique au même des fermetures de ces centres, parce que ces centres n'ont rien à faire là, surtout à se multiplier d'un jour à l'autre. D'ailleurs, en plus, selon moi, l'absurdité, c'est qu'on les arrête. En plus, on les arrête pour se faire de l'argent dessus, donc c'est même pas pour contrôler les territoires. Donc je pense que c'est pour ça que la demande pour moi des centres est liée aux centres et des meilleures les conditions des centres, ça va en contre le fait que du coup on justifie en logique des marchandises sur ces personnes, parce que finalement, ce n'est qu'un moyen pour se faire de l'argent, parce qu'on les arrête et on les libère autant que... Dès qu'on leur donne de l'argent, ils sont libérés. Moi, tous les migrants qui ont interviewé en Italie m'ont dit, comment tu es sorti de centre de détention? Je me suis fait arriver de l'argent, sauf qu'à un moment, on te kidnappe dans le sud et tu dois payer. Et puis, et en tout ça, en vivant des conditions aberrantes. Donc, je pense que la revendication politique, au moins pour moi, ça peut être que celle de ne absolument plus demander rien à la Libye et de, en un moment, de prendre conscience qu'il y a des demandeurs d'asile et qu'on ne peut même pas demander à ces pays de s'occuper d'eux. On parle d'Érythrée, on parle de l'Éthiopie, on parle de la Somalie. Ce ne sont pas des pays qui peuvent s'occuper des personnes qui, d'ailleurs, arrivent en Europe et ils ont tous le statut de réfugiés. Donc, c'est assez complexe, je suis d'accord, parce qu'il y a une réalité qui est autant loin de nos revendications, mais ne nous empêche pas de les demander tant que la situation est si tragique et aussi qu'on ne le saura pas, parce que pour nous, c'est de dire qu'on ne peut pas demander à un pays tiers de gérer ce que nous, on doit gérer. Mmh.